Il était le plus célèbre compositeur français de musique de film en activité. Michel Legrand est parti ce matin, musicien, arrangeur, orchestrateur, chef d'orchestre, pianiste et chanteur. Une vie, Laurent, consacrée, consumée par la musique et par le cinéma.
Oui, alors vous savez, j'ai découvert récemment que Michel Legrand est dans le Je me souviens de Pérec, qui est une sorte de bible. Quand on est dans Je me souviens de Pérec, ben c'est qu'on est un mythe vivant. Eh bien, il était avec cette rubrique Je me souviens que Michel Legrand fit ses débuts sous le nom de Big Mike. Et effectivement, c'était son nom de jazzman, parce qu'il faut quand même revenir d'abord aux origines de Michel Legrand, qui sont des origines classiques. Il a été l'élève de Nadia Boulanger, c'est-à-dire évidemment d'une très très grande formatrice qui a formé beaucoup beaucoup de musiciens français, des classiques et des jazzmen. Lui était à la convergence de ces deux-là, bien évidemment. Alors il a choisi la voie jazz, bien sûr, très très vite, avec des collaborations notamment avec Henri Salvador, et puis il continuera par la suite avec Sinatra ou avec Nougaro. Donc vraiment, son âme est jazz, et puis il va faire cette rencontre avec le cinéma dans une période où au fond il est assez naturel de rencontrer le cinéma, parce que c'est la nouvelle vague, c'est-à-dire c'est le moment où le cinéma envahit presque tout et est au cœur de la société française. Et il va en devenir presque le musicien attitré, c'est-à-dire qu'il va travailler évidemment avec Agnès Varda, évidemment avec Godard et beaucoup d'autres. Et puis Jacques Demy. Là, on a autre chose que une simple rencontre. On a, je crois qu'on peut le dire, un coup de foudre professionnel, c'est-à-dire entre deux univers qui vont parfaitement se correspondre, parfaitement se répondre, tant et si bien qu'ils vont inventer tous les deux un genre qui est très particulier, qui est non seulement la comédie musicale, mais la comédie musicale où on n'arrête pas de chanter depuis le début du film jusqu'à la fin du film. On chante, on danse, on rit et on pleure, parce que c'est les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire c'est Michel qui rit et Michel qui pleure dans deux films différents, mais le panel était extraordinaire.
Michel Legrand, une œuvre monumentale, plus de 150 partitions. Nous retrouvons au téléphone Stéphane Lerouge, spécialiste de la musique de film et co-auteur du livre de Michel Legrand, J'ai le regret de vous dire oui, sorti en septembre. Bonjour Stéphane Lerouge.
Bonjour.
J'imagine que vous êtes très triste ce matin. Vous avez énormément collaboré avec Michel Legrand.
Bien sûr, et là j'entends ces quelques notes des Parapluies et vraiment presque les larmes montent aux yeux.
Vous me disiez tout à l'heure qu'il voulait comme boucler une boucle Michel Legrand.
Oui, on a vu ces dernières années, ces derniers mois, quelque chose, cette envie de, comme s'il sentait que le temps lui était compté, qu'il y avait des choses essentielles qu'il devait, des travaux qu'il devait achever, notamment une sorte d'oratorio qu'il avait écrit au début des années 70 pour Barbara Streisand, qui s'appelait Life Cycle of a Woman, qui est un concept album qui racontait étape par étape, palier de vie par palier de vie, toute la vie d'une femme, de la naissance à la mort. Streisand avait refusé de l'interpréter, de l'enregistrer, en disant bon, finalement je peux pas chanter la naissance et la mort, c'est trop dur pour moi. Et finalement il l'a enregistré avec Nathalie Dosset. Et puis il y a eu ce film, cette aventure folle avec Wells. Ils avaient déjà travaillé ensemble dans les années 70. Et quand une équipe américaine a réussi à racheter les droits de ce film inachevé de Wells, The Other Side of the Wind, et à le coproduire avec Netflix, ils ont retrouvé dans l'agenda de Wells, de la main de Wells, cette phrase manuscrite, Call Legrand for the music.
Incroyable.
Vous imaginez cette magie finalement. Appelez Legrand pour la musique, mais on l'appelle 45 ans plus tard. Et j'ai vu Michel, là, il y a tout juste 10 mois, c'était au mois de mars de l'année dernière, donc 2018, se retrouver dans une situation qu'il n'avait jamais connue après 150 films, c'est-à-dire écrire pour un metteur en scène absent.
Oui.
Ce qui pose une vraie responsabilité au compositeur.
Vous avez coécrit donc ce livre, J'ai le regret de vous dire oui. Est-ce que ça résume Michel Legrand, ce titre, cette phrase?
ça le résume dans le sens où c'était un homme de paradoxe, parfois de contradiction. C'était un génie avec toute sa part de grandeur, d'élévation et puis en même temps d'emportement. Mais vraiment, ce goût du paradoxe était vraiment vissé en lui. Et avoir une phrase qui traduise deux sentiments mêlés, c'était vraiment lui, tout comme il aimait dans sa musique amalgamer des choses qui venaient de son éducation classique, son goût pour la musique symphonique moderne, mais aussi pour le jazz moderne, le jazz aussi de tradition, la pop, la variété, et mélanger tout ça, amalgamer tout ça dans une seule voix qui serait la sienne. Et oui, ce goût du paradoxe, d'ailleurs, quand on lui demandait en une phrase de dire comment ça se passait face à un metteur en scène, et Dieu sait s'il en a connu, il disait toujours « il faut respecter la demande du metteur en scène et lui tordre le cou ».
Pour la préfacer l'ouvrage que vous avez fait ensemble, vous avez demandé à pas n'importe qui, à Damien Chazelle, qui dit d'ailleurs dans sa préface, la musique avec Le Grand ne redoublait jamais l'image, elle cherchait plutôt à créer des émotions paradoxales, justement, contradictoires, à révéler une autre vérité. C'était quand même un choix tout à fait signifiant de demander à Chazelle, c'est-à-dire à La La Land, le renouveau de la comédie musicale, de, en quelque sorte, de faire le pont avec Michel Legrand.
Oui, oui, ben, on trouvait ça beau et Michel était très enthousiaste, il se disait, mais la rencontre avec Chazelle l'avait marqué, tout comme la rencontre avec des compositeurs plus jeunes dont la vocation avait été façonnée en quelque sorte par ses propres partitions. Je pense notamment à Pierre Attenot, Alexandre Desplat, bien sûr, Philippe Rombi, même Bruno Coulet, d'une certaine façon. Et là, Chazelle, il se disait, mais c'est génial, on a un metteur en scène de 33 ans déjà oscarisé et qui racontait que pour lui, le choc fondateur, c'était le moment où il a mis cette VHS des Parapluies de Cherbourg dans le magnétoscope de ses parents à l'âge de 18 ans et que les racines de La La Land remontaient à ce jour-là. Et c'est vrai que c'était une belle façon d'avoir deux générations qui se tendent la main. Et j'ai rencontré, enfin j'ai vu Damien de Chazelle en mois de décembre, il m'a dit, tu sais, quand j'ai reçu le livre, quand j'ai vu le nom de Legrand et que j'ai vu mon propre nom sur la préface, j'y croyais pas, je l'ai montré à mon père qui lui-même était abasourdi de nous voir réunis dans un même ouvrage.
Oui, parce qu'il était très reconnu aux États-Unis, Michel Legrand.
Bah, il était le compositeur français le plus célèbre à l'échelle planétaire, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, en Europe, en Russie énormément, oui. Au Japon, et parce que il correspondait à tous les cinémas. Enfin, je connais aucun autre compositeur qui ait réussi ce numéro de ce grand écart, ce numéro de contorsion, d'acrobate, de funambule, d'arriver à avoir une filmographie dans laquelle vous avez d'un côté Chris Marker ou Jean-Luc Godard, Agnès, Varda, bien sûr, et puis de l'autre côté, être tout à fait capable esthétiquement de répondre à la demande de Sean Connery quand il vous appelle en disant « je fais mon dernier James Bond, c'est toi qui fais la musique », et Michel qui se lance dans l'aventure de « Never Say Never Again », de « Jamais plus jamais ». Donc voilà, c'est ça, il était compatible avec toutes les esthétiques cinématographiques et c'est ce qui le rend vraiment unique.
Et est-ce qu'il n'était pas aussi compatible avec tous ses auditeurs? Parce que n'importe qui, même celui qui a une voix de crécelle comme moi, on peut fredonner du Michel Legrand sous la douche. C'est ça qui est extraordinaire en même temps. C'est-à-dire que ça le rend universel.
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Damien Chazelle dit joliment, chez Legrand, il y a ce côté, il y a toujours une ligne de chant très simple qui parle au cœur, au sentiment, et derrière, dans l'harmonie, notamment l'harmonisation et l'orchestration, il y a des choses très savantes, très complexes, et ce qui rend, il y a plusieurs paliers de compréhension, quoi, plusieurs grilles de lecture, mais avec toujours quand même, au niveau de la mélodie, une main tendue vers l'auditeur.
Il n'était pas du tout nostalgique, Michel Legrand, par rapport à son passé. Il voulait continuer son œuvre.
Oui, oui, oui. Il avait des projets pour 2019. Il y avait c'est un homme qui a toujours comporté dans une espèce de fuite en avant perpétuelle de projets et sans jamais, je veux dire, même quand on a élaboré, et Dieu sait si on en a fait, des anthologies de ses œuvres, notamment de ses bandes originales. Il avait une forme de plaisir à les réécouter, puis en même temps, ça l'agaçait vite. Parce qu'il disait, non, moi, ce qui m'amuse, c'est ce que je vais faire demain, quoi. Et donc, finalement, le passé et le poids du passé, et sa propre mythologie aussi, l'encombrait parfois. Et il préférait se retrouver brusquement avec Xavier Beauvois, comme ça a été le cas, quand notamment sur La Rançon de la Gloire et Les Gardiennes, à élaborer des nouvelles choses. Et en même temps, je l'ai vu là, il y a encore 2 mois, et j'en parle vraiment avec émotion, aux premières de Peau d'Âne, version scénique au théâtre Marigny, quand il y avait des petites filles qui venaient le voir avec émotion, lui demander une photo, un autographe, et il voyait ces petites filles au regard brillant qui venaient le voir comme ça, avec une fascination, et il était touché de voir que ce qu'il avait pu écrire, notamment sur Les Demoiselles ou Peau d'Âne, traverse le temps à ce point-là, échappe au temps et touche encore les générations, les nouvelles générations d'enfants du 21e siècle.
Quand on le voyait au piano, il avait un regard, il était solaire, il avait l'air heureux de composer.
Mais c'était vous savez, Christine, c'était vraiment il y avait chez cet homme...
De l'enfance.
De l'enfance, ouais. Quoi. Et à la fois, il avait tous les défauts et les qualités de l'enfance. Les qualités, je veux dire, dans l'enthousiasme et l'appétit de vivre, de création, l'humour, l'envie de rire, l'envie de s'amuser.
Était-il colérique?
Et il pouvait être parfois complètement...
Comme tous les enfants.
Impulsif, colérique, capricieux, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas un avant et un après Jacques Demy pour Michel Legrand?
Oui et non, mais il a continué après Demy.
C'est vrai.
Il a eu de magnifiques rencontres.
Sûr.
Je pense que la période pleine de la collaboration avec Jacques Demy va de Lola à Peau d'Âne. Mmh. Et il y aura quand même une cassure, une dissonance, en tout cas, dans leur relation à partir du moment où Legrand refusera de mettre en musique une chambre en ville. Enfin, ce qui allait devenir une chambre en ville. Et je pense que il y a de formidables partitions de Le Grand pour Demy après 73, mais que quand même la période haute reste, Lola, la Baie des Anges et Demoiselles.
Mais il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire mondiale du cinéma de ce couple-là.
Il y a d'autres grandes collaborations, ne serait-ce qu'en France, Claude Lelouch et Francis Lai ont fait 27 films ensemble. C'est même d'un point de vue en termes de durée de collaboration, de nombre de films, c'est encore plus riche, plus copieux. Mais c'est vrai que...
Mais d'imbrication quand même, plus forte.
D'imbrication et surtout de réinvention d'un genre, qui est le cinéma musical. Non, c'est sûr, c'est un Everest. et c'est vrai que Michel, avec son caractère, puisque vous parliez de ces fulgurances, de ces coups de génie, c'est vrai que ça a marché avec des grands cinéastes, ça a marché aussi avec Lozet sur quatre films dans Le Messager, ça a marché avec Wells, avec Robert Altman, Clint Eastwood, sur le deuxième film Clint Eastwood, Breezy, magnifique film. Et puis en même temps, il y a eu aussi, et il adorait raconter ça, parce qu'il disait que finalement, au cinéma, c'est quand même la musique au cinéma, c'est la rencontre de deux créateurs d'expressions différentes, un cinéaste et un compositeur, et parfois ça peut marcher, et puis parfois ça peut aboutir à des rendez-vous manqués, et ce qui lui est arrivé sur le Cercle Rouge de Melville, sur un film de Richard Lester qui s'appelle La Rose et la Flèche, notamment, et Michel disait, mais au moins c'est la preuve qu'on est bien vivant. et qu'on a pris un risque pour le cinéaste en lui apportant parfois un recul que lui-même a perdu sur son propre film.
Merci beaucoup Stéphane Leroux. Je rappelle que vous êtes co-auteur de ce livre de Michel Legrand, J'ai le regret de vous dire oui. Merci beaucoup. On va écouter maintenant Les Demoiselles de Rochefort, bien sûr.
Oui.
Ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes deux nées de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues,
attendant de l'amour ce qu'il est convenu,
d'appeler coup de foudre
aux sauvages passions.
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
On va maintenant retrouver nos deux invités, Pascal Thomas pour son nouveau film À cause des filles et Eric Cantona tout de suite pour Ulysse et Mona de Sébastien Medbédé.
Je suis cet homme avec cette barbe blanche. Aujourd'hui, ce visage est le mien. J'ai mérité ces rides. J'ai peut-être même mérité cette tristesse dans le regard. Je me souviens qu'il y a longtemps, je fus un jeune homme. Qu'est-ce qui pouvait bien se tramer derrière cette expression ? J'ai oublié.
Extrait de Blow Up, ce web magazine d'Arte que Sébastien Medbédé, le réalisateur d'Ulysse et Mona, vous a consacré. Eric Cantona, un portrait à travers vos films, vos rôles. Cette tristesse dans le regard, comme vous dites, elle vient d'où ?
Cette tristesse dans le regard, j'espère qu'il n'y a pas que ça.
Non, mais il y a aussi ça.
Mais je ne sais pas, je n'ai pas vraiment conscience de tout ça, moi.
Non. Quand vous regardez dans un miroir, c'est parce que vous voyez, quoi.
Quand je regarde dans un miroir, ouais, c'est...
Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez?
Qu'est-ce que je... Ça dépend des jours, ça. Ça dépend des jours.
Ce matin.
Ça dépend des jours, comme devant une œuvre d'art, quoi. Ça dépend des jours, on la voit selon nos humeurs, quoi.
Vous êtes une œuvre d'art?
Non, mais je suis pas une œuvre d'art. Ce que je vois dans le miroir, c'est plutôt, une réflexion. La réflexion du miroir et une réflexion, la réflexion intellectuelle. Quoi.
Ouais.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas de tristesse. Je vois un regard très intérieur, très intériorisé. Mais pas de la tristesse, non. Il y a besoin. On se rencontrait là. J'ai vu un regard très amusé. Tout le temps, je disais des conneries, mais c'est plus de l'intériorité que de la tristesse. C'est mon point de vue de metteur en scène, mais vous savez, je suis un débutant.
Sébastien Medbédé, qui vous avez déjà dirigé dans Marie et les naufragés, cette fois vous donne un premier rôle. Plutôt que de raconter l'histoire d'Ulysse et Mona, passons par cet extrait avec votre copain dans le film, Jean-Luc Vincent, qui dit déjà beaucoup.
Putain, Ulysse, comment je me sens con sans elle. Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'elle nous abandonne?
C'est moi qui ai abandonné Alice. T'as oublié?
Non, c'est vrai. Bah, t'étais encore plus con. Je peux te raconter un truc sans que tu le prennes mal?
Vas-y.
La nuit dernière, j'arrivais pas à trouver le sommeil à cause de Sylvie. Tu sais ce que j'ai fait? Ben, je me suis mis à penser à toi. Tu sais quoi? Ben, ça m'a permis de relativiser. Je me suis dit, je suis quand même pas au niveau d'Ulysse. Ulysse, lui, il était au top et il a dégringolé d'un seul coup. Bon, moi, j'ai jamais vraiment été au top, mais j'étais à peu près heureux jusqu'à présent. C'est vrai, non? T'étais un artiste reconnu. T'avais une femme que tous les hommes rêveraient d'avoir, un fils formidable, et t'as tout foutu en l'air.
Ulysse était au top, il a dégringolé d'un seul coup, Eric Cantona. Pourquoi il a dégringolé?
Oh, peut-être parce qu'il s'est retiré, il a décidé d'arrêter, il fait sa dernière œuvre contemporaine, dans une bulle, avec un masque. Et puis il décide d'arrêter.
Marre de ce
radicalement,
monde.
Radicalement, marre de ce monde, peut-être marre de ses recherches, de ses inspirations, peut-être marre de tout ça, je sais pas.
Un type qui ne comprend plus le présent, comme dit Sébastien Medbédé.
Ouais, en tous les cas, il décide de se retirer. dans un manoir, au milieu, dans une forêt, il joue au tennis, seul, contre une machine.
Ou peut-être qu'il est devenu le monde de l'art contemporain. C'est ça qui vous fait, à mon avis, c'est, en regardant le film, c'est l'impression que j'ai. Le titre est plus sain que tout ce qui est proposé par l'art contemporain. Voilà,
il a une forme d'intégrité, cet Ulysse.
Ben, c'est dur d'arrêter, hein. C'est des décisions difficiles. On rêverait, des fois, de se retirer du monde, d'aller vivre seul, en ermite. Mais c'est difficile, parce que finalement, c'est la chose la plus simple qui serait réalisable.
Ouais.
Se retirer, vivre dans un petit masé, avec une vivre copine. De chasse, de pêche,
avec
la
une
nature.
Copine.
Une copine.
Vous êtes arrêté, vous, un jour.
Mais c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Quand on est forcé d'arrêter, c'est plus simple, mais plus difficile. Même plus difficile à accepter. Voilà. De prendre une décision qu'on décide vraiment... radical, alors qu'on pourrait continuer, ça c'est difficile.
Il y a arrêté dans la gloire, et puis il y a arrêté comme lui, qui n'est pas forcément un artiste hyper reconnu.
Bah, il est assez reconnu quand même, parce que Mona, elle est étudiante aux Beaux-Arts, et c'est sa source d'inspiration, c'est son modèle, c'est pour ça qu'elle va à la recherche de ce mec. Donc c'est un artiste qui est reconnu, sa dernière œuvre, elle est au Centre Pompidou, c'est quand même un grand artiste. Contemporain. Moi, j'aime beaucoup l'art contemporain.
Oui.
Contrairement à Pascal Thomas.
Je parlais du personnage. Ouais. Non, mais c'est le milieu. Moi, je me suis arrêté 2 fois 6 ans. Alors, je vais vous dire, je ne pouvais plus supporter les gens de cinéma. Je comprends très, très bien ça. Bon, après, j'ai repiqué, mais j'ai eu besoin.
La cigarette,
Ouais, c'est comme ça. La cigarette, j'ai arrêté pour de bon. Mais depuis 26 ans, depuis la naissance de ma fille. Mais c'est pas très intéressant. Mais pour ce qui est le personnage que vous interprétez parfaitement, et on a l'impression cette vie de solitaire lui convient, et son chien, qui est important dans le film, lui convient mieux que tout ce que lui proposait, les expositions, d'ailleurs, il est agacé quand la fille vient le voir, la scène est très très bonne, quand il la rejette, etc. Vous êtes à la fois dans la douceur, la violence, et vous avez aussi une qualité que n'ont pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui, énormément d'acteurs et actrices aujourd'hui, c'est que vous avez une voix qui se reconnaît. Un acteur, on doit reconnaître sa voix, même quand vous êtes arrivé, vous avez parlé, vous étiez dans mon dos, ça y est, c'était lui. Et ça, il faut le reconnaître même quand il est off, même quand il n'est pas de l'écran. Voilà, donc là vous avez cette qualité-là, et à la fois de beaucoup de douceur et de violence, et d'intériorité, pas de tristesse, je ne vois pas de tristesse chez vous.
Qu'est-ce que vous aimez dans l'art? Quel artiste contemporain vous aimez? Vous disiez, j'aime l'art contemporain. Qu'est-ce que vous aimez? Cette radicalité, cette...
Non, mais j'aime bien les portes que ça ouvre. J'aime bien Philippe Parreno. J'aime bien même un artiste de street art qui est un artiste contemporain. Et dans sa démarche, même s'il travaille dans la rue, quoi. C'est Banksy.
Oui.
J'aime bien Anne-Véronica Jensen. J'aime bien Kader Acha. Ouais, il y a beaucoup de...
Vous peignez?
J'aime bien les chambres.
Vous peignez toujours?
Je m'amuse, ouais.
Vous faites des photos aussi?
Oui, je m'amuse aussi.
Bon, pourquoi, on s'amuse tout le temps. Pourquoi vous dites vous amusez? Enfin, c'est pour...
Non, je m'amuse, en fait, j'en ai besoin pour moi, quoi. Mais je le fais en toute humilité, quoi. Voilà, j'aime pas trop l'idée d'artiste, oui, de ceux qui s'auto-proclament artistes, quoi. Voilà, c'est à chacun de dire ça me parle ou ça me parle pas, telle œuvre. D'ailleurs, elle va vous parler à vous, elle va pas parler à un autre. C'est très subjectif, tout ça.
En tous les cas, Pascal vous a dit que vous étiez un acteur, de ce point de vue-là.
Ça me fait plaisir, en tous les cas.
Non, mais c'est un très bon acteur. Non, mais les artistes, vous avez raison, c'est insupportable. D'ailleurs, les artistes dans le monde de la peinture. Ah, tu n'aimes pas? J'aime bien cette pièce. Bon, le langage est insupportable, est devenu insupportable. D'ailleurs, dans le film que j'ai fait, on évoque une seconde, l'art contemporain, et les gens disent, ah non, l'art contemporain. C'est ce qui est dans ce film.
Ulysse, ermite, donc, dans sa maison, va rencontrer un jour cette jeune femme qui elle-même aussi dessine et qui a envie de vous rencontrer. On écoute.
Pourquoi vous vous intéressez à moi? Je n'intéresse plus personne.
Ben moi, vous m'intéressez.
Et pour quelle raison?
Vous voulez vraiment que je vous donne des raisons?
Allez-y, pour voir.
Je m'intéresse à vous parce que j'en ai marre des garçons nus, des fruits dans les coupes, de la peinture byzantine. Parce que j'aimerais réussir ce que vous avez réussi. Moi aussi, j'ai envie de construire quelque chose de beau à partir de ma vie. Je voudrais vous assister.
Je travaille plus. J'ai arrêté, vous le savez.
Mais vous devez reprendre, je peux vous aider. Je peux faire des maquettes, je peux faire des recherches. Je peux porter des objets lourds. Je peux faire des films, des photos. Des...
On a un peu trop bu, tous les deux. C'est pas prudent de conduire dans votre état. Je vais vous préparer une chambre.
Éric Cantona, non seulement vous jouez bien, mais vous ne jouez pas seul. Vous avez dit un jour, jouer c'est se sentir vivre, sentir son corps vibrer et jouer avec les vibrations et les excitations des autres. Parce que vous en avez côtoyé des acteurs plus que vous, je veux dire, dans leur formation. C'est important.
Mais c'est important de jouer avec les autres et de prendre l'énergie des autres comme eux prennent la nôtre. C'est un vrai échange, quoi. Je suis allé voir un concert de jazz d'une clarinettiste d'origine syrienne, je ne sais plus le nom, mais qui disait entre deux morceaux au public qui était là, vous faites partie de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de jouer et ce que je suis en train d'improviser. Parce que cette énergie du public fait partie de la musique.
Et du spectacle.
Et du spectacle.
Ouais.
Mais acteur, vous l'étiez déjà avant de l'être. Je veux dire, même sur un terrain, on parlait de votre jeu audacieux et imaginatif. Et même en sport, on dit créer du jeu. C'est pareil pour l'acteur, non?
Je crois qu'on est... Après, ça dépend comment il est pratiqué, le sport.
Hein.
Oui. Le football, en particulier, quoi. Ouais.
Je vous ai pas dit
le nom. Quand il y a certains joueurs, on peut se dire que c'est un art, et certains autres, un petit peu moins, quoi. Ouais. Mais en tous les cas, il y a toujours une forme de création, d'improvisation, de spontanéité, par rapport à tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a... Comme au cinéma, c'est notre vie, il y a une part de spontanéité. Quand on joue avec l'autre, on sait pas à un moment donné ce qu'il va nous donner, comment on va jouer avec lui. Donc il y a une part inconsciente qui est toute notre vie inconsciente.
Oui, mais quand vous disiez le clarinettiste nous disait, vous aussi vous faites partie de ma création. Pareil sur un terrain, le public aussi fait partie.
Vous prenez le même match avec les mêmes joueurs quand il est joué à huis clos, avec le même enjeu, c'est pas du tout le même match.
Non. Est-ce que vous vous êtes toujours senti acteur?
Je me suis toujours senti acteur. J'ai toujours eu envie de faire ça, en tous les cas. J'ai toujours eu envie de trouver des moyens d'expression et qui me permettent de jouer, qui passent par le travail, pour faire naître un minimum de confiance et ensuite le plaisir du jeu, quoi. Voilà, j'ai toujours eu envie de ça. Donc, je l'ai eu dans une vie intérieure et puis, je l'ai aujourd'hui au cinéma ou au théâtre, et peut-être d'autres choses après, je sais pas.
Un de vos partenaires dans le film, c'est votre frère, Joël Cantona. On va écouter cette scène qui est très belle, c'est une scène de rêve dans laquelle vous le rencontrez.
Tu as déjà vu le film The Swimmer? Tu devrais voir ça. C'est l'histoire d'un type qui décide de rentrer chez lui à la nage. En empruntant chaque piscine se trouvant sur son chemin. C'est Burt Lancaster qui joue ce type. T'as pas de piscine?
Non.
Tant pis. Alors c'est ici que tu vis? Ça ressemble un peu à notre maison, non? Ça me rendrait presque nostalgique. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s'anéantit. Tout périt. Tout passe. T'as pas l'air d'avoir si peur.
Peur de quoi?
Peur de mourir.
Oui, je vous en parlais pendant l'extrait, Éric Cantona. Vous n'avez pas encore vu ce film incroyable qui s'appelle The Swimmer avec Burt Lancaster, Pascal Thomas, vous l'avez vu.
Oui,
c'est un des films les plus incroyables de l'histoire du cinéma américain dans les années 68.
Oui,
c'est un Burt Lancaster qui est en maillot de bain du début à la fin et qui revisite sa vie et ses démons.
C'est un très, très, très bon film.
Très bon film.
Plus extraordinaire.
Très intriguant.
Je vous incite sans avant.
Non, mais bien sûr.
Très insolite.
Mais BD dit, il y a quelque chose d'intime et de troublant de réunir ces deux frères. C'est ce que vous avez ressenti aussi, le trouble?
Avant cette scène de rêve, il y a une scène où on communique, parce que la dernière œuvre
d'Ulysse.
Parce que c'est Mona qui vient, qui lui donne un peu cette force de reprendre quelque chose. Et c'est peut-être ce qu'il a nourri dans ses œuvres d'avant, c'est cette séparation avec sa femme, cette séparation avec ce conflit avec le frère, avec le fils, tout ça. Ces fêlures, cette souffrance d'être séparé d'eux, qu'il ait décidé ou pas, on ne sait pas. Mm. Mais en tous les cas, on est séparés d'être chers. Je pense que c'est ce qu'il a nourri aussi dans ses œuvres, avant qu'il décide d'arrêter. Et sa dernière œuvre, l'œuvre ultime, c'est de retrouver ces gens et de se réconcilier avec eux ou essayer de recréer quelque chose avec eux. Et la scène avec mon frère d'abord quand on échange par Skype,
oui.
Je trouve aussi très forte. Mais c'est troublant de jouer. Parce que c'est mon frère dans le film et c'est mon frère dans la vie. Oui. Et en même temps, c'est un rêve quoi, qu'on est en train de vivre.
C'est bizarre,
à ce moment-là, il a un maillot de bain.
Oui.
En plein hiver, en pleine forêt. Quoi. Voilà, si on voit. Parce qu'on n'a pas les images. Donc, c'est très troublant. Ouais. 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 L'idée de jouer deux frères au cinéma dans une autre histoire que la nôtre.
Oui.
Parce qu'avec mon frère Joël, nous, on habitait dans une petite maison quand on était petits.
Oui.
Et on avait deux lits. Deux petits lits de 70 cm, donc il y en avait un qui était contre le mur,
oui.
Il y avait 30 cm, et puis un autre de 70 cm, et puis 30 cm, et puis une fenêtre. Voilà. Et avec mon frère Joël, on avait celui qui était contre le mur,
oui.
Et on a dormi là ensemble, tête-pied, enfin,
oui,
tête-pêche,
voilà, jusqu'à l'âge de 10 ans.
Et
l'autre, c'était mon frère. Et l'autre, c'est mon frère Jean-Marie. Donc, on est une famille assez proche.
Oui.
Voilà. Et de le retrouver là, comme ça, c'est parce que des fois, il y a des frères comme ça. Il y a des familles où c'est moins, où il y a moins de fusion.
Oui.
Nous, on est une vraie famille avec une vraie fusion. Enfin, j'en sais rien. Enfin, ce que je ressens en tous les cas, et ce qu'on ressent tous.
Voilà. Il est acteur aussi, lui.
Il a fait des films.
Ouais, il a fait des films.
Mais il est magnifique.
Ouais.
Il est magnifique. Pascal parlait de voix tout à l'heure. Je trouve qu'il a une voix aussi, magnifique, une présence extraordinaire. Il a une magnifique physique.
Il n'y a pas de jalousie entre vous?
De jalousie?
Ouais.
Ah non.
Non.
Non, non, non.
Non,
non. Non, si on pouvait avoir un film où il y a les deux rôles principaux, et même les trois, l'autre, mon frère Jean-Marie, il est né aussi, je dis que jouer.
Comment vous choisissez vos films? Parce que vous avez des choix atypiques un peu depuis que vous faites ce métier.
Je choisis les films que j'ai la chance de... Je reçois pas 50 milliards de trucs, mais j'ai la chance de recevoir des choses que j'aime. Et tout ce que je fais, c'est vraiment ce que j'aime. Quoi. J'ai la chance de pouvoir choisir des choses que j'aime.
Je regarde, vous parlez main ouverte, je regarde votre ligne de chance, c'est extraordinaire. Hein.
Regardez,
la main gauche. La ligne de chance de votre main gauche est extraordinaire.
Ah, je sais pas, moi,
c'est
si
magistral. C'est celle-là.
Ah ouais?
Oui, vers le majeur. Non,
voilà.
Allez voir une bitonis. Ah non, mais une ligne de chance, pas aussi bien que la mienne.
Bon, j'espère que ça va porter chance au film Ulysse et Mona qui sort mercredi prochain.
Allez le voir.
Aussi, vous restez là, bien sûr. Au cinéma, et vous allez autant parler que lui sur votre film, d'accord? Vous allez parler à Pascal Thomas. Au cinéma, c'est souvent la mariée que l'on voit s'enfuir de l'église le jour de la cérémonie. Cette fois, dans À cause des filles, votre film, c'est lui, le marié incarné par Frédéric Becbédé. Cet événement va générer des confessions, des récits, des confidences où chacun se révèle. Tout cela est dans, donc, À cause des filles, ce nouveau film.
Pauvre Céleste. Bernard qui n'est pas venu, c'était son témoin quand même.
Hier soir, il avait une signature à l'écume des pages pour son bouquin. Ça s'est terminé tard, il s'est pas réveillé.
Il aurait pu faire un effort.
Il arrive, il est dans le train.
Oui, ça avait mal commencé. C'est un signe.
C'est plus qu'un signe. Parents absents, en croisière, je ne sais où. Le témoin qui ne s'est pas réveillé, le marié qui s'est volatilisé. Pas de parents, pas de témoins, plus de mariés. Ça fait beaucoup, hein.
Tirer le jour de ses noces, j'aurais jamais cru que Christophe était capable d'un truc pareil.
C'est peut-être le premier acte courageux de sa vie.
Qui nous dit que c'est pas mieux comme ça?
T'as pas toujours dit ça? T'as essayé de coucher avec lui, non? J'ai pas essayé. J'ai couché avec lui.
Mais c'est pas vrai. Mais quand?
Il y a moins d'une semaine.
Mais non.
Parce que je me souviens bien, toi aussi t'as couché avec lui, non?
Ouais, c'était bien avant qu'il soit avec elle.
Et puis c'est moi qui l'ai littéralement sauté dessus. Il s'est laissé faire et il a raconté à personne.
Ah. Mais tu vois, c'est un type bien, en fait.
À cause des filles, vous dites que c'est pas un film à sketch, Pascal Thomas, mais un film nombreux. Pourquoi vous aimez pas le...
Non, non, c'est un film à tiroir, c'est pas un film à sketch.
D'accord,
Et une continuité, c'est un mariage et les gens croisent leurs histoires, etc. Et puis il y a un lien musical qui permet d'oublier la chute des films à sketch. Non, c'est surtout pas un film à sketch.
Pourquoi ça s'appelle À cause des filles?
Point d'interrogation. Trois oui. petits points, point d'interrogation.
Ça, c'est une trace de... Non. Recherchez le titre. Il y a une chanson magnifique écrite par Antonin Barthelot, qui joue, qui la chante dans le film, etc. Et qui a ce refrain, à cause des filles. Bon, on cherchait le titre, on se dit, ben voilà, ça se répète plusieurs fois, on va avoir ça à la radio. C'est une bonne marque publicitaire, enfin, bon, de lancement. Et d'un coup, là, à ce moment-là, c'était une histoire pas possible. On peut pas aujourd'hui. Pourquoi on peut pas aujourd'hui? Ben, MeToo, vous vous rendez compte.
Vous ne pouvez pas appeler un film comme ça.
Non, il y a eu à cause des garçons, personne n'a protesté, donc à cause des filles. Et il dit, on n'a qu'à faire à cause des filles et des garçons. Il dit, mais ça veut rien dire, à cause de tout le monde. Bon. Deux mois de discussion.
Ah bon?
Donc, j'ai dit, bon, écoutez, à la fin, à cause des filles, des garçons et des hippopotames. Ça va? On parle pas assez des hippopotames. C'est une espèce en voie de disparition. Bon, finalement, on a décidé d'à cause des filles avec une petite ornement, un ornement de ponctuation et des points d'interrogation.
Voilà. Et en plus, les femmes... Mais
attendez. En plus, j'ai bien, pour me défendre, c'est que à cause depuis Louise Labbé, en passant, ensuite, en arrivant à Zola, Proust, et avant Balzac, veut dire grâce à. Dans Balzac, vous avez, c'est à cause de vous que j'ai pu avoir cette place de conseiller. Dans Proust, vous avez causé en langage diplomatique veut dire offrir. Donc, ouais. C'est à cause des filles, ça veut dire un don des filles.
Oui, c'est pas négatif. Voilà.
Et d'ailleurs, les femmes dans ce film sont fortes, puissantes, triomphantes, drôles. Dans tous vos films, c'est ce que j'allais dire.
D'ailleurs, j'ai eu de féministes, réalisatrices, etc. Elles m'ont donné un label, un prix de féminisme. Voilà.
Et vous êtes fier de ça?
Non, je ne suis pas fier, mais je vous le dis. Ça me sort d'affaire. Je ne suis pas fier.
Et les hommes sont souvent lâches.
Non, ils sont foireux, les types. Ils sont simplement foireux. Ils savent pas, ils ont leur truc, là, ils savent pas quoi en faire. Bon. Ce sont des pauvres enfants, au mieux. Non, on a quand même un personnage un type un peu, l'homme politique, il est soigné, quand même. Bon.
En revanche, il y a José Garcia qui incarne un chauffeur de taxi.
Magnifique.
Qui va amener à la maternité une femme au bord d'accoucher et qui reçoit ce coup de fil le lendemain matin.
Elisa Alessandro.
Oui.
Oui. Oui, Daniel Lebovitz, oui. Ah, non, c'est pas mon enfant. Mais quel enfant, non. Je suis venu avec une dame hier soir, oui, ça, je suis venu avec elle. Ah non, mais moi je suis pas du tout le père de cet enfant, j'ai rien à voir avec cette dame. J'étais en train de faire ma tournée avec mon taxi, et là il y a une dame qui m'arrête dans 5 minutes. Je la fais entrer parce qu'elle était enceinte, et là je lui dis, vous êtes italienne. Et je lui fais, pour rester avec moi, je veux pas vous payer. Alors, tout d'un coup, je lui dis, non, moi je vous l'offre la course. Et puis lui, non. Elle était italienne.
Personne ne croit en son innocence, ni le personnel de l'hôpital, ni sa femme. Il a beau se débattre, au bout de 4 mois, le bébé se retrouve chez lui.
C'est drôle comme situation, ça, Eric Cantona, non? Un type qui amène une femme à la clinique et qui est pris pour le père le lendemain.
Ouais, non, mais c'est très, très, très drôle.
José Garcia, sacré acteur.
Non,
merveilleux.
Ouais. Je voudrais c'est dommage qu'il ne fait pas plus de films comme ça. Tout le monde me dit en voyant ce film, mais c'est Rému, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça?
Ouais.
Il préfère ses acrobaties. Bon, c'est bien, hein, on s'amuse. Mais à mon avis, il y a une telle humanité chez lui, une telle richesse de subtilité de jeu, que c'est regrettable qu'il ait pas des rôles plus, disons, un peu plus denses.
Ouais. Pascal Thomas, vous avez dit, l'artiste ne doit pas créer de malheur dans ses récits.
Oui.
Jamais de malheur.
Alors. Tu sais qu'une fois, on m'a dit, mais t'es jamais triste? Et j'ai dit, non, je détesterais ça. Et je crois que il y a une tendance aujourd'hui à montrer des choses malheureuses, horribles, à être dans la poubelle, etc. Les metteurs en scène que j'ai aimés, les John Ford, etc., ou Melo McCarrey, Jean Renoir, etc., même s'il y avait des histoires sombres, etc., il y avait toujours quelque chose de très positif qui faisait que les gens étaient sauvés. Donc, dans ma vie, comme dans et surtout dans les films, dans la représentation filmique, puisque les films sont un peu à caractère autobiographique, je ne retiens que le bonheur, pas de façon mièvre, mais des choses heureuses me plaisent. Je ne sais d'ailleurs pas filmer une scène de bagarre. Vous voyez, on prend un truc élémentaire, j'en ai filmé 3. Une au collège, une scène des oseaux, c'est des deux types qui se bousculent à propos d'une histoire politique, il y a le surveillant général qui arrête ça, avec tous les mecs autour qui les excitent. Une autre, c'était dans le film Le Grand Appartement, oui. Où il y avait le personnage qui avait pris pour modèle Jacques Rosier, qui avait habité chez nous pendant à peu près 8 ans, qui répétait ses scènes de comédie musicale, et le huissier arrive. C'est des histoires vécues. L'huissier arrive, et dans le film, donc sur le scénario, il y avait bagarre générale. Et la fille arrive avec son sang, etc. Dans le truc, il ne sait pas faire ça, etc. Donc comme il y avait des danseuses, on a transformé la bagarre en ballet, qui avait la même efficacité, et une autre fois, il y a 3 coups de poing, et le type tombe, ça va. Mais je ne sais pas filmer les bagarres. Alors je suis bagarreur. J'étais.
Vous avez fait des scènes de bagarre, Eric Cantona, vous, au cinéma ?
Ouais, j'en ai fait pas mal, ouais. J'ai commencé par... le premier film que j'ai fait, c'était Le Bonheur dans le Pré.
Oui.
Donc je ne me battais pas. Ouais. Dans Mookie, je me battais. Dans Les Enfants du Marais... je me battais.
Ouais.
Dans le film d'HPG, je me battais. Oui, je me bats souvent. Dans celui-là, je me bats à un moment donné aussi, dans un bar.
Un coup de poing magnifique.
Le plus dur, c'est de simuler.
Le plus dur, ce serait d'être celui qui tombe, quoi. Moi, j'aime bien ne pas tomber. mais c'est intéressant aussi.
Ouais.
Ouais, ouais.
Pour enchaîner sur l'idée de, effectivement, de pas créer de malheur, il y a aussi l'idée de pas ennuyer le public.
Ah, surtout.
De ne pas s'ennuyer.
L'école, c'était comme ça, j'ai amusé les autres, ça s'est poursuivi. Je ne veux pas ennuyer. Voilà, je déteste m'ennuyer. Je déteste m'ennuyer au cinéma. Ouais. Bon, ils ont un festival Romer, mais j'ai toujours tiré des films de Romer.
Vous appartient, parce qu'elle Thomas.
Ça m'appartient. Pour moi, ce sont des passants, mais ce n'est pas le pire. Vous aviez quand même Antonioni. J'ai fait partie des siffleurs à Antonioni quand j'étais jeune cinéphile à 16 ans, à Cannes, en 1960. Quand on est passé l'Aventura, nous on aimait Alain Douane, on aimait Raoul Walsh, on était en train de réhabiliter ces cinéastes très populaires, mais qui avaient le défaut par rapport à la critique d'avoir été produits par des grosses maisons de production comme la MGM, la Warner, etc. Donc,
vous pourriez citer surtout les cinéastes italiens que vous aimez.
On ne doit pas ennuyer, jamais, 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 jamais.
Vous pourriez citer Scola et les autres que vous aimez, les cinéastes italiens que vous aimez.
On s'est tourné vers les voilà. Cinéastes amusants, on a même on les a portés à la connaissance du grand public, tous ces cinéastes italiens des années 50 et scénaristes qui sont devenus mes amis d'ailleurs.
Alors à propos de scénaristes, ouais. Vous dites que le scénario c'est l'illusion.
Non, c'est l'illusion.
L'écrit.
Et vous... La littérature c'est l'illusion. Pourquoi ? Allez-y, finissez votre...
Non, c'est parce que je disais que pendant votre tournage, vous inventiez le film il n'était pas écrit avant.
Pas tout.
Pas tout.
Non, mais il faut en faire rentrer la vie dans les films.
Bien sûr.
Non, le mariage au café, on espérait, un mariage, on va avoir du beau temps. Bon, on a eu une demi-journée de beau temps. Ben, on a fait rentrer le mauvais temps, mais ça donne des grilles sublimes. On a même fait, il y a un moment donné, il y a un personnage qui demande chez Denis Belloc, le restaurateur du café et qui nous recevait, qu'est-ce que c'est que ce temps, etc. Elle dit, c'est un climat océanique ici, qu'est-ce que tu crois ? Bon, on fait rentrer les choses. Mmh. Et idem, quand on était déjà en tournage, quand le producteur Pancrazi m'a demandé est-ce que tu as quelque chose pour José Garcia, j'ai pensé à cette histoire. Voilà. Et non, mais plus, quand on a cherché la maison de José Garcia, je n'aime pas les appartements ni les maisons sans livres. Donc on trouve une très belle maison du côté de Montreuil, avec des bouquins partout. On prend, il est chauffeur de taxi. Bon. Chauffeur de taxi poète. Ben le mec, on a changé. Il est devenu chauffeur de taxi poète. Ouais. Idem pour Rossi de Palma. On était aussi en cours de tournage, là. Il n'y a pas quelque chose pour Rossi de Palma. Oui, d'accord. On va la voir le week-end. Elle jouait une pièce de Francis Lopez que j'avais vu créée par Luis Mariano, Le Prince de Madrid. Elle était très bonne. Et ça me donne l'idée de faire un peintre amateur et son modèle. Et on lui parle de ça. Je lui invente une histoire, là, comme ça. Il me dit, bon, d'accord, mais je ne veux pas être nu. D'accord. C'est le sujet du truc. C'est le modèle qui ne veut pas être nu. Oui, donc les choses naissent comme ça, vous voyez.
Et bon. Vos deux films d'ailleurs, c'est drôle, Ulysse et Mona et le vôtre, Pascal Thomas, ont été tournés très vite, en 4 semaines.
Oui.
Ça veut dire que c'est chaud, non, pour faire toutes ces scènes.
Oui, je suis un chaud. Je suis à chaud.
Non, mais c'est vrai que c'est...
Sérieusement, ça va vite.
C'est pas facile.
Non, je vais pas vite. Moi, j'ai 38 personnages, quand même.
Oui.
Justement.
Oui.
Donc 23 principaux.
Mais comment on propose un produit? C'est compliqué d'avoir de l'investissement quand le scénario n'est pas complètement écrit, justement.
Ah, ça, vous faites croire qu'il est totalement écrit.
Non, parce que maintenant, comment les films sont produits, il y a des ânes qui sont dans les scènes de télévision, qui composent des comités. Alors, je regarde certains génériques, je me dis, putain, il y a tous les gens, les intervenants, maintenant, il y a, ça a dû être lu par 200 personnes. Il ne faut pas 200 personnes pour décider d'un film. Il faut deux, un ou deux. Voilà. Un producteur qui rêve. Qui, le producteur est celui qui rêve plus le film que vous.
Bon.
Et la situation, sans compter des filles comme Delphine Ernotte, qui sont des fléaux absolus, qui vous disent ça suffit ces films d'hommes de plus de 50 ans. Non, mais elle va. Vous remplacez hommes de plus de 50 ans par ce que vous voulez. Vous pouvez, avec des ethnies différentes, vous allez voir qu'il y a des protestations là. Les mecs, on n'a rien dit, sauf moi qui gueule. Qui continue à gueuler d'ailleurs. Bon, donc c'est ridicule. Une cinématographie est forte quand toutes les générations travaillent. Quand vous aviez le cinéma américain des années 50, italien des années 50, le cinéma français, vous aviez dans le cinéma des années américain des années 50, vous aviez ceux qui avaient fait du muet et ceux qui commençaient, Billy Wilder, Black Edwards qui arrivait, etc. Donc c'est la logique de la vie. Il faut que tout soit réuni. Et c'est pour ça qu'on parle des films nombreux. J'aime qu'il y ait du monde, de gens très différents, d'âges différents. Il y a des enfants, il y a des vieux, etc. Alexandra Stigbart m'appelle. Elle dit ah tu fais un film, c'est quelque chose pour moi. Bah, non, il n'y a rien d'écrit, mais viens. Elle est venue une semaine, ça devient un des piliers du film.
Enfin, en hommage à Michel Legrand qui vient de nous quitter, un journal spécial tout à l'heure de 13h à 14h. Et demain, Vincent Josse lui consacrera son grand atelier inédit et notre générique sans parole sur la musique du film Un été 42, composé par Michel Legrand.